Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je suis à Saint-Tine, au domicile de Carlos Marin. Carlos Marin est enseignant, compositeur, arrangeur et guitariste de musique classique de renommée internationale.
Bonjour.
Alors, on va faire connaissance avec vous, on va retracer tout votre parcours. Monsieur Marin, vous êtes né en 1959.
Alors, je suis né en banlieue parisienne, de parents espagnols. Mes parents sont partis légalement d'Espagne et avec l'intention d'y passer quelque temps pour vivre mieux que là-bas, en se disant, voilà, on reste là, peut-être qu'on fait une famille, mais on retournera. Et en fait, ils sont retournés 50 ans après, quoi. Et moi et mes sœurs, on est restés.
Votre première rencontre avec votre instrument de prédilection, c'était quand et comment ?
Alors, ça peut vous paraître étrange, mais c'est la vérité. Il n'y a pas eu une rencontre sonore avec l'instrument. Il y a une rencontre physique, visuelle avec l'instrument. Tout petit, je devais avoir 5 ans, on est allé avec mes parents se promener, je ne sais pas où, et les jouets ne m'intéressaient pas. Il y avait une guitare, il y avait un jouet, c'est une guitare de jouet, et je ne voulais que ça. Bon, finalement, je l'ai eu, mais c'est une guitare avec des bonbons à l'intérieur. Pour jouer, c'était compliqué. Et puis, il n'y avait pas de professeur non plus. Et la deuxième rencontre avec l'instrument, ça a été 2 ans après. Mes grands-parents venaient faire notre connaissance à Paris. Mes grands-parents maternels, ils sont donc venus avec des petites choses pour les enfants. Et moi, ils m'ont ramené une petite guitare en bois. Toujours pareil, elle était comestible, il y avait des choses à l'intérieur. Bref. Et je ne la lâchais pas, c'était toujours pareil. Et l'autre chose, ce qui s'est produit très rapidement après, c'est-à-dire je devais avoir 9 ans, quand par hasard on écoutait un peu de guitare à la télévision ou autre, j'en avais la chair de poule. C'est-à-dire que j'avais une réaction vraiment physiologique au son de la guitare. Je ne sais pas si c'était tant à la musique qu'au son de l'instrument. Mais la réaction, elle était nette. Moi, j'étais pas bien, je me sentais un peu tourmenté par ce que j'entendais. Alors, je ne sais pas ce que j'entendais, d'ailleurs. Mais c'était l'instrument qui, lui, me rendait vulnérable. Voilà. Les souvenirs les plus lointains, c'était désarmé par la forme de l'instrument, par... Et ensuite, ça a été le son. Et alors, ce qui a été déterminant, ça a été le fait que mes parents m'aient inscrit dans un conservatoire. Donc, il y avait des listes d'attente. Et le temps passe. Et à 12 ans, on reçoit un courrier en expliquant que je pouvais prendre une leçon de guitare. Et j'ai eu la chance de tomber dans un endroit qui n'était pas un endroit bourgeois, on va dire. Un des meilleurs élèves d'Andrés Segovia, qui était le pape de la guitare à l'époque. Et il enseignait quelques heures à Bagnolet. Et il a été mon premier professeur.
Son nom ?
Ramon Cueto.
Plus tard, il y a eu un autre guitariste de renommée internationale, qui est décédé d'ailleurs il y a peu de temps, c'est Alberto Ponce.
Alberto Ponce, ça a été la grande rencontre en fait. Celui qui a tout catalysé, c'est lui. C'est qu'en fait, Ramon Cueto était un musicien extraordinaire, un professeur extraordinaire aussi, mais ce n'était pas un sorcier. Mais Alberto Ponce était quelqu'un qui avait la capacité d'exalter ce qu'il y avait de meilleur en vous. Il ne vous demandait pas de jouer comme lui. Il arrivait à sublimer ce qu'il entendait. Il comprenait tout de suite, mais vraiment d'une manière intuitive. C'était un pédagogue d'ailleurs bizarre, parce qu'en fait, ce n'était pas un technicien, ce n'était pas un brodeur, quoi. Mais une intuition extraordinaire. La musique comme langage. Mais comme langage qui ne dit rien, mais qui exprime tout. C'était un sorcier. Il y a des musiciens qui sont passés entre ses mains, qui ont fait vraiment des très très grandes carrières, alors qu'ils n'étaient pas ni préparés, ni eux-mêmes étaient préparés, ou avaient pris conscience qu'ils avaient une vraie valeur.
En 1982, vous aviez à l'époque 23 ans, vous obtenez votre licence de concert de l'École normale de musique avec brio, et en interprétant entre autres des morceaux de Bach ou bien de Enz.
Alors, Oui, bac, c'était un passage obligé. On ne pouvait pas passer ce qu'on appelle la licence de concert. En réalité, ça correspond à un master 2 aujourd'hui. On ne pouvait pas passer sans l'éliminatoire bac. Et lors même de la finale, puisque la finale, c'était un concert. Ce n'était pas une épreuve devant un jury seulement. Il y avait vraiment un concert. D'où le mot licence de concert qu'Alfred Cortot avait vraiment imposé à l'époque. On lui avait dit non, licence de concert, ça fait un peu... Non, mais ce sont des futurs concertistes. Donc, il faut qu'ils donnent un concert. Et pendant quelques années... C'était toujours le prélude de la quatrième suite pour luth. Il était tellement difficile, c'est un leitmotiv. Ça veut dire que ceux qui voulaient un jour se présenter à une licence de concert, ils savaient qu'ils joueraient ça. Donc ils avaient le temps de prendre de l'élan ou de partir. Et puis il y avait aussi une partie contemporaine. Donc il y avait une sonate imposée. Antonio Ruiz Pipo, qui était un immense compositeur, qui a écrit beaucoup pour Narciso Yepes. Les tablas, les chansons, les danses.
Peu de temps après, vous avez étudié la musique de chambre, et précisément celle de Geoffroy de Chaume.
C'est ça. Alors Antoine Geoffroy de Chaume, c'était un musicologue très important. Il était professeur à la Sorbonne. Moi, je l'ai connu, il était déjà retraité comme professeur. J'ai rencontré Geoffroy de Chaume et j'ai pris quelques leçons chez lui. Ce n'était pas du tout dans le cadre de la faculté. Et je le rencontre et il me dit « Tiens, vous ne pouvez pas me jouer ça ?» Et je joue une pièce, mais vraiment, c'était pas bon du tout, quoi. J'avais rien compris à la musique ancienne. Et je dis, écoutez, passez me voir un jour, si vous avez du temps, passez me voir, je vous parlerai de deux ou trois choses. Et il m'a donné quelques leçons qui m'ont marqué au fer. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux comme ça, finalement, parce que je pensais savoir, et lui m'a clairement expliqué que je ne savais rien. Mais il ne me l'a pas dit comme ça. Moi, j'avais déjà des années d'études de guitare classique. J'avais fait de l'harmonie, du contrepoint. C'est pas qu'on est prétentieux, mais on se dit « Non, mais je sais. » Mais en fait, je ne savais rien du tout. Il m'a expliqué le rapport entre la musique ancienne et la danse, la musique de cour et la musique populaire, et que tout était lié à la danse, tout était lié au mouvement de la danse. Il m'a parlé du tempérament inégal, vraiment. M'a fait comprendre que nous, on jouait sur un tempérament qui était pythagoricien, mais qu'à l'époque, et depuis le Moyen-Âge, on n'acceptait pas ça, parce que ça, c'était très désagréable à l'oreille. En fait, ce qui comptait, c'était le rythme, et puis après, le caractère, on accordait les instruments selon le caractère de chaque pièce, ou presque. Et donc, je suis tombé des nues. Donc, il est parti définitivement. Je suis très heureux de l'avoir rencontré, surtout dans ces conditions-là, avec Robert Boucher, qui a fabriqué les très très belles guitares qui sont aujourd'hui exposées au Musée Instrumental de France à la Villette. Il y a quelques guitares à lui. Presti Lagoya jouait sur des guitares de Robert Boucher. Julian Bream jouait sur Robert Boucher. Emilio Pujol jouait sur Robert Boucher. Bon. Et je rencontre Robert Boucher comme ça, presque par hasard, par l'entremise d'un copain. Et chez lui, je rencontre ce monsieur-là, Geoffroy de Chaume. Alors évidemment, après, je me suis renseigné sur Geoffroy de Chaume. Une fois qu'il avait disparu, et je me dis, mais c'est quand même quelque chose, quoi. Quand même quelque chose, quoi. Il y a des rencontres, des fois, c'est des choses...
Vous écoutez actuellement l'interview de Carlos Marin, un enseignant, compositeur, arrangeur et guitariste de musique classique. Au milieu des années 80, c'est déjà à cette époque que vous avez commencé à faire de nombreux concerts, que ce soit en France ou à l'étranger, des festivals. On peut en citer plusieurs. Le Festival International d'Aix-en-Provence, un qui s'appelle Les Impromptus en Berry. Mmh. Je vous laisse poursuivre.
Ah oui, Les Impromptus en Berry, c'était... Alors, les concerts, c'est une chose. Ce qui est intéressant dans les concerts, c'est les rencontres qu'on fait, c'est les voyages qu'on fait, c'est les lieux qu'on visite. Moi, j'aimais Chopin, mais qui n'aime pas Chopin ? J'ai rencontré dans le Berry des personnes qui pouvaient en parler très longtemps de Chopin. Et pourquoi ? Parce que Chopin avait vécu avec Georges Sand pendant des années à Nantes. J'ai découvert cette région, la forêt noire du Berry, la cuisine berrichonne, le poulet au sang, enfin plein de choses comme ça. Et surtout, ça a été un peu comme un fil que j'ai suivi et qui m'a amené aussi un peu à la peinture de Delacroix, qui m'a amené à plein d'auteurs, à plein de compositeurs, à plein de... Les Impromptus en Berry étaient organisés par Jean Darnel et qui enseignait le théâtre à Paris dans un cours privé et qui était très très féru de musique, qui la connaissait tellement bien qu'il avait créé les Impromptus en Berry. comme il avait créé aussi les Nuits de Nohant. Et Nuits de Nohant, c'était pareil, c'était extraordinaire. C'était des rencontres, Schwarzkopf, Elisabeth Schwarzkopf, Aldo Ciccolini, des lieux de, vraiment où tous les arts étaient exprimés, quoi. Donc pour moi, aller dans le Berry, ça a été pareil, encore une fenêtre ouverte sur d'autres choses, quoi. C'était des concerts qui nous servaient un peu de tremplin. Mmh. Et à l'époque, c'était pareil. On voulait simplement pouvoir travailler. On était payé trois fois le prix qu'on nous avait proposé, en fait. Parce qu'il y avait le cachet, qui était des cachets très honnêtes, mais ce n'était pas des trucs... Bon, on était défrayés, on avait un cachet, on pouvait démarrer correctement. Mais surtout, il y avait derrière tout ça, il y avait un bloc culturel insoupçonné. On avait une ouverture réelle sur le monde artistique d'hier et d'aujourd'hui.
À la suite de ces concerts en France, vous êtes produit également à l'étranger ?
Oui, j'ai joué un petit peu à l'étranger aussi, oui. Forcément, les frontières ne sont pas très grandes. Ce qui était intéressant, par exemple, à l'étranger, ça a été des rencontres en Afrique du Nord aussi, de culture, de monde. En fait, on voyage pour rencontrer aussi des gens, pour rencontrer des gens qui vivent différemment, qui pensent aussi différemment et qui ont des cultures aussi valables que les nôtres et qui sont différentes. Moi, j'ai joué en Algérie, j'ai joué au Maroc. En Algérie, à une époque où il n'y avait pas de concert. J'ai joué en Espagne aussi. Alors, quand j'ai joué en Espagne, j'ai joué au Festival de Santander. C'était vraiment très bien. C'est très, 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 très bien.
Alors, dans votre carrière, Monsieur Marin, vous avez publié également des œuvres originales pour la guitare classique. On peut en citer une ou deux. Il y en a une qui s'appelait L'Empire mélodique, ou bien encore, tout simplement, Études pour la guitare.
En fait, ça a commencé très tôt. Ça n'a pas commencé chez des éditeurs, en fait. Bon, j'ai travaillé pour les éditions Combre, Biodo. Bon, des études. Alors, des études, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça permet d'étudier. Mais toujours l'idéal, quand on fait des études, en fait, il faut bien appeler les choses par leur nom. Donc, ce sont des études. Mais l'idée, c'est d'éveiller sur la sensibilité artistique de l'élève. Alors, éveiller les doigts et éveiller l'oreille. Voilà. Et puis, toujours le cerveau en haut, quoi. Et entre le cerveau et le cœur, une flèche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les relier en permanence, quoi. Voilà. Mais donc, des études pour étudier, donc très progressives. Donc, avec l'idée d'éviter toute souffrance à l'élève, mais pas tout effort, quand même. Progresser en disant à l'élève, fais ton mieux. Tu peux le faire. Ça correspond tout à fait à ce que tu peux faire. Et puis, l'étude suivante, ben, c'est juste un tout petit peu plus. C'est pas beaucoup plus. C'est un tout petit peu plus difficile. C'est difficile d'écrire des études. C'est difficile parce que très souvent, on ne se met pas à la place de l'élève, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à l'élève toujours d'écouter le professeur, mais les professeurs n'écoutent pas les élèves. Je veux dire qu'ils écoutent, oui, au sens fort, avec les oreilles, mais écouter un élève, c'est essayer de comprendre comment il fonctionne.
Bien sûr.
Bon. Et si on l'écoute un peu mieux, lui, il va nous écouter après, ça c'est sûr. Donc les études sont faites pour ça aussi, pour aiguiser la technique, mais aiguiser aussi la curiosité musicale. Et puis toujours mettre des choses qui vont bien au palais, c'est-à-dire des choses que les enfants vont aimer, des petits exercices rythmiques. C'est quand même plus marrant de jouer quelque chose avec peu de notes, mais des rythmes très sympas, qu'une absence totale de rythme, c'est-à-dire presque que des noirs, et puis de temps en temps une blanche qui fait coucou, avec des notes qui montent, qui descendent, ça n'a aucun intérêt. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent comme ça. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et les études sont rarement faites pour les élèves. C'est rare. La plupart du temps, je vous le dis tranquillement, ceux qui publient des études pour les élèves, en fait, ils les publient pour eux, quoi. Voilà, l'impression qu'ils ne savaient pas jouer, puis ils ont écrit ça, et avec ça, ils ont appris à jouer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les autodidactes. Ça caresse leur ego et c'est tout. Quand on écrit des études pour les élèves, c'est très compliqué. Très, très compliqué.
La première partie du reportage consacrée à Carlos Marin, enseignant, compositeur, arrangeur et guitariste de musique classique de renommée internationale, est terminée. Retrouvez-nous demain pour la seconde partie du reportage. Merci de votre écoute. Au revoir.
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.